Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, réouverture d'un dossier vieux de 20 ans. Le 4 décembre 1998, une jeune trentenaire, Paquita Parra, est découverte carbonisée dans sa voiture aux abords d'Angoulême. Une piste est tout de suite privilégiée, celle de l'ex-compagnon. Mais, faute de preuves, l'homme est relaxé. Dans la foulée, la juge est dessaisie pour partialité en faveur de la partie civile. Et en 2010, coup fatal, le dossier Paquita est définitivement abandonné, clos, jeté aux oubliettes. Enfin, pas tout à fait. Car en 2018, deux décennies après le meurtre, une jeune lycéenne découvre en pleine sortie scolaire une boîte rose qui contient les effets personnels de Paquita. Récit d'une énigme coriace, en deux actes, restée à ce jour non élucidée, malgré la science. Précision, elle est importante. Paquita se savait menacée et voulait la protection des gendarmes. Ils ne l'ont pas écoutée, pas assez. Un problème grave qu'on retrouve dans bien des féminicides, autant de drames qui pourraient donc être évités. Notre invité aujourd'hui, Christine Maz, l'avocate de la famille de Paquita, et Salvador Parra, l'un des frères de la victime. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA. Récit documentaire Sharon Oury, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay.
Fabrice Drouel. Affaires Sensibles. Sur France Inter.
Vendredi 4 décembre 1998, 3h du matin. Le soleil d'hiver ne s'est pas encore levé sur la ville endormie de Puy-Moyen, petite commune au sud d'Angoulême. En pleine campagne, sur un parking isolé de la vallée des Eaux-Claires, à l'ombre d'une falaise, deux gendarmes en patrouille découvrent une scène alarmante. Un véhicule a été incendié. Il est encore fumant. Mais au milieu de la pénombre, une vision encore plus inhabituelle secoue les deux hommes. Une silhouette inerte, la tête penchée en arrière, assise côté conducteur. Les deux gendarmes contactent immédiatement les pompiers. Leurs premières impressions étaient les bonnes. Il y a bien un corps carbonisé au volant de cette voiture. Par chance, la plaque d'immatriculation de la Fiat Uno rouge est épargnée. Et en quelques minutes, sa propriétaire est identifiée. Son nom, Francesca Parra. Mais ici, tout le monde la surnomme Paquita. Paquita Parra, donc, est une jeune femme de 30 ans, aux cheveux bruns et bouclés, employée d'une célèbre enseigne depuis Moyen. Mais s'il s'agit bien de sa voiture, ce n'est pas forcément elle qui était au volant. La gendarmerie tente d'abord de la joindre, sans succès. Chez elle, à une vingtaine de minutes en voiture de la scène de crime, du côté de Villebois-la-Valette, aucun signe de vie non plus, ni à son travail. Rien d'officiel encore, mais la famille est immédiatement prévenue, autrement dit, les frères de Paquita et leur mère, Carmen. Pour aider à identifier le corps, ils sont invités à examiner une vidéo de la scène du crime. Carmen n'y parvient pas, mais ses fils se lancent. Et pour eux, il s'agit bien de leur sœur. Un peu plus tard, les prélèvements dentaires confirmeront définitivement les soupçons.
On regarde la vidéo, donc on est avec mes frères, on regarde ces images. On aimerait bien se dire non, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est quelqu'un qui a emprunté sa voiture, une amie. Mais non, on est persuadé que c'est elle. Enfin, pour moi, j'ai la conviction que c'est elle. Et pour mes frères, c'est pareil.
Calciné, le corps devient extrêmement fragile et les indices peuvent à tout moment disparaître sous les mains des experts. Les TIC, TIC, techniciens en identification criminelle, font donc preuve de prudence. La victime est devenue inséparable du siège de la voiture. Alors les équipes n'ont pas d'autre choix que d'évacuer le tout d'un seul bloc. Puis ils décortiquent, examinent, testent et parviennent à de déroutantes conclusions. D'abord, la voiture est bien garée dans une allée déserte à l'abri des regards. Les portières ne sont pas verrouillées et le siège conducteur a été reculé au maximum. Mais plus étrange, le pare-brise, intact, a été déposé juste à côté de la voiture calcinée. Des précautions qui laissent difficilement imaginer un banal accident ou un suicide. Pour les techniciens et les gendarmes, aucun doute, il s'agit d'un meurtre. Plus instructif encore, on apprend que dans les poumons de la jeune femme, il n'y a aucune trace de suie ou de fumée. Paquita est donc déjà morte au moment de l'incendie. Cette nuit-là, le cadavre a dû être d'abord installé dans la voiture et il a été ensuite incendié. Mais comment Paquita a-t-elle été tuée? Et par qui? Et quel était le mobile de cet ou de ces inconnus? Les quelques heures qui précèdent le drame seront constituées et commencent à éclairer cette fatale soirée d'hiver. La jeune femme courait un grave danger. Elle s'en était confiée à la gendarmerie un peu plus tôt dans la journée.
Juste avant de mourir, Paquita veut absolument être entendue. Et le gendarme va lui indiquer, ben non, vous reviendrez le 5 décembre. Elle ne sera donc pas entendue, mais elle dira cette phrase. Est-ce qu'on peut me mettre sur écoute comme Carole Bouquet ?
En effet, la dernière journée de Paquita Parra n'a rien d'anodin. Tout commence pourtant sans encombre. Travail, bref détour au garage de l'un de ses frères pour un petit bonjour avant de rentrer chez elle. Sauf que Paquita ressort juste après et fonce tout droit à la gendarmerie. D'après les témoignages des officiers, la jeune femme, préoccupée, demande avec insistance qu'on la place sur écoute pour être rassurée, dit-elle. Craignait-elle quelqu'un? La menaçait-on? Finalement, on la renvoie chez elle sans qu'elle n'ait eu le temps d'en dire plus. De toute façon, elle doit revenir la semaine d'après, à propos d'une histoire de chéquier volé durant l'été. Il sera plus judicieux, pensent les gendarmes, de traiter toutes les plaintes en même temps. Voilà. Mais comme on le sait, cette seconde visite n'aura jamais lieu. La jeune femme a peut-être été rattrapée par celui ou ceux qui lui faisaient peur le soir même où elle confiait ses appréhensions. Une chose est certaine, plus on en apprend, plus le mystère s'épaissit. La personne qui a dérobé son chéquier était-elle la même que celle qu'elle redoutait au point de prévenir la gendarmerie? Est-ce encore le ou les mêmes individus qui se sont débarrassés du corps? Parallèlement aux investigations de la police, deux témoins révèlent des informations essentielles. Le soir du brasier, le premier croise Paquita Parasol est bien vivante, vers 22h. Elle est en voiture, garée au bord d'une route, dans cette vallée reculée des Eaux Claires, où son corps sera retrouvé. Elle semble attendre quelqu'un. Le second témoin, lui, aperçoit des flammes à 23h30, dans les environs. La jeune Charentaise a donc rendez-vous ce soir-là, dans un lieu isolé, à l'abri des regards. Une rencontre qui lui a peut-être coûté la vie.
Quand je suis revenu à 22h15, que je redescendais pour rentrer chez moi, j'ai pris le virage, donc si vous voulez du virage, je suis à 50-60 mètres de la voiture. Et là, j'ai vu la fille. Bien sûr, je l'ai éclairée avec mes phares. À mon avis, quand je suis arrivé, elle attendait quelqu'un. Elle a regardé, elle devait connaître certainement la voiture qui devait arriver, puisque je l'ai bien vue. Sa première réaction, ça a été de bien regarder. Dire, ça y est, interrogatif, en disant, je vous dis, ses yeux. Les yeux étaient comme ça, là, étaient à regarder, et puis elle disait... Mais c'est bien lui, c'est... J'ai dit, putain, mais c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle fait là?
Piste, suspect, mobile, pas besoin de creuser bien loin. À peine chargé d'enquête, les gendarmes prennent connaissance d'une situation amoureuse préoccupante. Depuis quelques mois, en effet, Paquita fréquente un collègue. Mais rien à l'horizon de ce côté-là. En revanche... La jeune femme continue secrètement de voir son ex-compagnon, Franck, un artiste peintre qu'elle avait pourtant quitté 11 mois auparavant, après plus de 3 ans de relation. Les témoignages le concernant sont implacables. L'homme est violent. Alors, en un rien de temps, une perquisition est ordonnée à son domicile. Bonne pioche, un ticket de caisse retrouvé révèle des indices plutôt probants. Le jour du meurtre, l'ancien petit copain achète en effet 3 bidons d'essence et une paire de gants à latex. C'est garde à vue immédiate. Mais le suspect se défend de toute implication et présente sans tarder un alibi. Ce soir-là, il a dîné avec un ami dans un restaurant. Une version, c'est vrai, tout de suite validée par l'établissement. Mais ce nouvel élément n'empêche pas la poursuite de la piste conjugale. Selon les calculs des enquêteurs, l'ex-compagnon de Paquita aurait eu largement assez le temps de rejoindre la vallée des Eaux Claires et commettre le meurtre avant l'heure fatidique où les premières flammes ont été aperçues. Plus accablant encore, le profil psychologique de l'amant est dressé par une experte et il est sans équivoque. Psychopathe. Quant aux proches de Paquita, les frères et une nièce, Manoli Parra, eux aussi sont très clairs quant au profil de cet ancien amant.
Elle est sursautée facilement. Dès que le téléphone sonnait, Il y avait des moments, elle était un peu ailleurs, pensive, et on savait pas vraiment pourquoi. Donc, est-ce qu'elle était dans ses pensées? On ne sait pas. Et elle était pas elle, quoi. Il y avait quelque chose quand même qui l'a turlupiné, on le voyait bien.
Quand il était là, elle était plus pareille. Elle était renfermée, elle ne rigolait plus, ou alors quand elle rigolait, on sentait qu'elle était un peu coincée.
Il y a un repas au Nouvel An, un Noël qu'il a fait à la maison. C'est dingue. Il a passé son repas à la tenir par le cou, comme si elle était à lui, quoi. Comme si elle lui appartenait. Ouais, c'est ça. Il l'a possédée, quoi.
28 septembre 99, le seul et unique suspect dans cette affaire est mis en examen, puis placé en détention provisoire. Paquita Parra a-t-elle été victime de violences conjugales jusqu'au féminicide? Au bout d'un an sous les barreaux, la justice, elle, n'en est finalement plus si sûre. Du moins, pas assez. En effet, pourtant solide, les preuves à l'encontre de l'amant sont progressivement balayées. D'abord, les parents de l'accusé ont engagé un détective privé qui, en quelques jours, est parvenu à démontrer qu'après le restaurant, leur fils n'a pas traîné. Non, il est rentré simplement chez lui pour regarder un film intitulé « Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir ». Mais oui, un film avec Jerry Lewis, dont il se dit fan. Comme le confirme Roger-Marc Moreau, détective privé au service de la famille de l'amant inculpé, et Jean-François Barret, journaliste à la Charente Libre.
En fait, il était pressé de rentrer car il était fan de Jerry Lewis, l'acteur américain. Et le film qui était diffusé ce soir-là, c'était, je crois, « Par où t'es rentré, je ne t'ai pas vu sortir ». Et lorsqu'il arrive, il allume sa télévision et il nous décrit la scène exacte qu'il a pu visionner à ce moment-là.
Quand Jerry Lewis essaye de servir un verre d'eau à la fontaine, qui ne marche pas, il enlève le verre et là, la fontaine se déclenche et il se tape sur les cuisses en le racontant.
Bien qu'ajouté au dossier, cet alibi n'est pas le seul élément décisif en faveur du petit ami. Un autre incident, bien plus problématique, aide réellement l'ancien compagnon de Paquita à se disculper. Il apparaît en effet que la profileuse, comme vous voulez, ne s'est jamais entretenue avec le suspect qu'elle désignait comme psychopathe. Non, jamais. Ses conclusions sont donc immédiatement invalidées. Après 10 mois de détention préventive, l'artiste peintre est donc relaxé, faute de preuves. En 2008, il dépose même plainte contre l'État et reçoit un dédommagement de 100 000 euros. Affaibli par ce revirement de situation, l'enquête stagne. Aucune autre piste n'avait été envisagée, aucun plan B. Les enquêteurs étaient pourtant à deux doigts de tourner la page de cette tragique histoire qui marqua l'hiver 98. Et les déconvenues seront nombreuses pour les enquêteurs. Peu après la remise en liberté de l'ex-petit copain, événement judiciaire rarissime, la juge est dessaisie pour cause de partialité en défaveur de l'ancien prévenu. Et les conséquences sont désastreuses. Sur environ 3000 pièces inscrites au dossier de l'incendie criminel, plusieurs centaines sont retirées pour irrecevabilité. Tout s'écroule. Retour à la case départ, Carmen Parra, la mère, n'en peut plus.
Ça ne peut pas arrêter comme ça. Et ça, c'est vrai, combien de fois que je le dis. Mais ça ne peut pas arrêter comme ça, ça ne peut pas. Je ne sais pas.
Vous attendez, vous espérez quoi? Vous espérez que quelqu'un réagisse?
Voilà,
quelqu'un
parle. Il va peut-être quelqu'un qui a vu quelque chose. Hein. Peut-être savoir ce qui s'est passé. Ça va nous aider.
Et pourquoi?
On est toujours entendu ce qui s'est passé. Et qu'elle a souffert, qu'elle a eu peur, et qu'il nous a appelé. Pourquoi il est parti sans personne qui sache ce qui s'est passé? Et on ne sait rien. Comment vaut mieux jouer? On ne sait rien.
En septembre 2004, le sort s'acharne. Le dossier est confié à une nouvelle juge d'instruction qui vient de prendre ses fonctions à Angoulême. Mais le classeur est quasiment vide. On l'expédie donc sur le champ à la section de recherche de Bordeaux. Deux ans plus tard, après avoir passé au crible les différents éléments, le bureau bordelais les renvoie à l'instruction d'origine sans plus d'hypothèses. Le temps passe et aucun scénario ne se dessine. C'est l'impasse. Extinction des feux de l'enquête pendant près de 12 ans. Jusqu'à l'ordonnance finale, non-lieu. À partir de là, le dossier est officiellement clos, la vérité est enterrée. jusqu'au moment où intervient un événement improbable.
Sensible, Fabrice Drouel.
Affaire Paquita, septembre 2017, près de 20 ans après le meurtre. Une jeune adolescente participe ce jour-là à une sortie scolaire. Avec sa classe, elle parcourt un bois, mais pas n'importe lequel, non. Il se situe à moins de 2 km du lieu où Paquita est morte. Oh, il y a longtemps, certes. Mais la collégienne aperçoit alors dans les broussailles une boîte rose. À l'intérieur, elle découvre un pull vert, un porte-chèque du Crédit Agricole, des cartes de fidélité, mais surtout, surtout, un badge professionnel au nom de Paquita. L'élève garde les effets pendant 9 mois, sans le dire à personne. Mais un jour, elle se remémore cette mystérieuse trouvaille et décide de taper sur Internet le nom inscrit sur les documents. Francesca Parra. Vertige. Elle se rend compte en quelques clics de ce qu'elle découvre et de la dimension de ce qu'elle découvre. Alors direction, la gendarmerie.
Les scientifiques sont formels. Cette boîte n'a pas passé 20 ans dans la nature. Elle a été déposée récemment. Pour son frère, c'est un motif d'espoir, mais aussi de nouvelles interrogations.
pourquoi cet endroit, pourquoi, si c'était l'auteur des faits, pourquoi ne nous a-t-il pas fait disparaître, tout comme il a pu faire disparaître, ou tenter de faire disparaître, le corps de Paquita, c'est une énigme.
La boîte, évidemment, est scrupuleusement examinée. Résultat, 3 ADN au compteur. Celui de la jeune fille, bien sûr, de sa mère également, et un troisième, inconnu. L'avocate de la famille, Christine Maz, reprend tout de même espoir. C'est fondamental pour la suite de l'enquête. Ce qui était à l'intérieur était dans un excellent état de conservation, se réjouit-elle. Profondément optimiste, devant les caméras de FR3 National.
Il y a une volonté qui est très exprimée, que ce soit par tous les magistrats qui ont connaissance de ce dossier, puis les gendarmes qui sont à pied d'œuvre sur un dossier repris à zéro, sur des éléments nouveaux de découverte d'objets qui semblent peut-être potentiellement avoir été mis, en tous les cas qui n'ont pas été dans ce bois depuis 20 ans. Donc une vraie volonté de trouver qui a tué Paquita.
20 ans après, vous pensez que c'est encore possible, que les preuves n'ont pas été dissimulées, qu'on peut encore libérer également les paroles ?
Ah oui, absolument. Je crois qu'il faut savoir que des affaires qui sortent au bout de 20 ans, eh bien, cela existe et qu'aujourd'hui, plus que jamais, on y croit.
Répondre d'abord à cette question. Par qui la boîte a-t-elle été déposée ? Quelques hypothèses ont de quoi apeurer le voisinage. Ce bois est si proche du lieu du crime qu'il me semble évident que les effets de Paquita ont été mis là par quelqu'un qui vit dans le coin, déclare Christine Maz. On se dit que c'est quelqu'un que l'on croise souvent, qui nous sourit, à qui on serre la main de temps à autre. C'est terrible à vivre, reprend Jean-Marie, l'un des frères de la jeune victime. En outre, selon Maître Maz, le criminel est forcément aux abois. Quelques mois avant la procédure de la boîte, en effet, un nouveau procureur ouvrait déjà le dossier Paquita par le biais d'une enquête préliminaire. De quoi réveiller les inquiétudes du ou des coupables. Et à y regarder plus près, ce sont même plusieurs événements judiciaires qui sont venus interrompre le long silence qui a pesé sur l'affaire depuis sa mise au placard, dans la plus grande discrétion, rappelons-le. Ces interventions, les voici. 2014, l'avocate de la famille se bat depuis déjà plusieurs années pour que l'enquête non résolue soit reprise. Le procureur de l'époque, Patrice Cambérou, finit par ordonner à la gendarmerie de Poitiers le réexamen d'une liste d'éléments précis. Un bon début. 2015, Jean-David Cavaillé, successeur au poste de procureur, accepte de rencontrer la famille Parra. Une victoire de plus, non négligeable. 2016, toujours à huis clos, on incorpore à l'enquête de nouvelles données, comme les lettres anonymes reçues par l'avocate au fil des années. Il faudra les croiser avec les premiers entretiens, eux aussi passer de nouveau au peigne fin. Jusqu'à la découverte de la boîte en 2017 qui porte l'enquête à une autre échelle. David Parra, l'un des frères de Paquita, est heureux mais reste prudent. Il a eu tellement de faux espoirs jusque-là.
Mon sentiment après la découverte, du moins l'ouverture de l'information qui nous a été communiquée par le procureur, mais c'est un nouvel espoir. En gardant, comme il a déjà été dit, une prudence quant à l'avenir du dossier.
Le 18 juillet 2018, forte de cette persévérance, les parents obtiennent enfin que l'information judiciaire soit définitivement et officiellement rouverte. C'est donc acté. Le procureur de la République d'Angoulême transmet ainsi le dossier à un nouveau juge d'instruction. Réveil total des investigations deux décennies après le meurtre de Paquita Parra. Rapidement, des décisions claires et engagées se succèdent jusqu'à un acte ultime et conséquent, l'exhumation du corps de la victime. La procédure est prévue en date du 4 septembre 2019 à 14h précises. Elle est exceptionnelle. 2 à 3 corps seulement sont exhumés chaque année en France pour les besoins de la justice.
C'est ici, dans ce cimetière, juste derrière moi, que le cadavre de Paquita Parra va être exhumé tout à l'heure à 14h par les services de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Une opération délicate, mais si importante dans ce feuilleton judiciaire aux multiples rebondissements. Un souhait pour les proches de Paquita Parra, enfin comprendre ce qu'il s'est passé dans la nuit du 3 au 4 décembre 1998, les circonstances de sa mort. Une chose est sûre, l'exhumation marque un tournant décisif dans cette affaire vieille de 21 ans.
« Cet après-midi-là, dans le cimetière de Villebois-Lavalette, les quatre techniciens de l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale sont suivis de près par plusieurs patrouilles, appelées à garantir le bon déroulement de la très délicate opération. Car c'est inédit dans la région alors. Pour l'occasion, des rues sont bloquées et une sortie scolaire prévue non loin du protocole macabre a été annulée. Parmi ceux qui assistent à la terrible séquence, l'avocate Christine Maz, accompagnée de quatre frères para sur cinq, Jean-Marie, Salvador, José et David. Le sixième homme de la famille, le père, est mort il y a plus de 10 ans. À distance, leur mère, Carmen, une femme âgée de 87 ans, tient le choc. Ce qui l'aide, c'est ce besoin viscéral de connaître la vérité sur la mort de son enfant. David, le cadet, acquiesce. Déterrer Paquita, c'est irréel. Nous ne sommes pas préparés à ça. Mais c'est une nécessité pour connaître la vérité. Il n'y a pas une nuit où je ne pense pas au meurtre de ma sœur. Toute la famille vit depuis 20 ans un cauchemar. On veut savoir qui lui a fait ça. Et il ajoute...
Une vie ainsi que celle de l'ensemble de ma famille, totalement brisée, complètement changée, a essayé de se reconstruire. Il y a une vie avant le 3 décembre 1998 et une vie après.
Jean-Marie Parra prend le relais. Nous avons enterré notre sœur il y a plus de 20 ans. C'est très dur. Au plus profond de nous-mêmes, nous redoutons un nouveau coup d'épée dans l'eau. Mais tout ce qu'on veut, c'est trouver le coupable et pouvoir faire notre deuil. Enfin, le moment est venu. Sous surveillance du magistrat, le cercueil est méticuleusement sorti de terre. Il prendra immédiatement la route de Rosny-sous-Bois, où l'attendent les scientifiques spécialisés. Pendant l'autopsie, pas de temps à perdre. Des témoins sont rappelés. La famille est à nouveau interrogée. Alors un vent d'optimisme souffle sur la Charente. La résolution de ce cold case pointe enfin à l'horizon. Le cadavre est à présent entre les mains des experts. On se penche d'abord immédiatement sur une blessure observée en 98 et restée obscure. Un renfoncement juste au niveau de la boîte crânienne. Mais on n'en tire pas de conclusion probante. La déformation peut autant mettre en évidence une attaque mortelle qu'un effet des flammes sur le squelette. Mais cette fois, les spécialistes sont dotés de technologies bien plus avancées qu'il y a 20 ans. Les scanners, par exemple, ont progressé et parviennent à révéler en détail les compositions d'un corps, même altéré. Et pour un ex-enquêteur, c'est sans équivoque. Aujourd'hui, l'Institut a développé des techniques qui permettent d'aller beaucoup plus loin dans le champ des possibles, qui permettent de travailler même sur un corps calciné et, parmi ces nouveaux outils, le logiciel Anacrim.
Anacrim permet de faire des schémas relationnels et des chronologies, même lorsque les protagonistes d'un dossier sont très nombreux.
Dans le cadre d'une procédure judiciaire un peu complexe, comme on a souvent dans le cadre des commissions rogatoires, eh bien, nous ne fermons aucune porte. On ouvre toutes les hypothèses. Et Anacrim nous sert, en fait, à dessiner un cadre dans lequel on s'assure qu'on a bien réalisé tout ce qu'il devait être fait et qu'aucune hypothèse n'a été laissée de côté.
Convaincu de l'efficacité des innovations scientifiques, l'avocat de la famille ajoute « À l'aide de scanners, on devrait pouvoir déterminer, en analysant les os, si elle a été tuée avec un objet contondant ou encore si on lui a tiré dessus. » Chose impensable il y a encore quelques années. La série d'analyses reste secrète. Mais l'un des frères de Paquita finit par livrer quelques informations. Grâce au logiciel Anacrim, il y a plusieurs personnes dans le viseur de l'enquête actuellement, des gens proches de Paquita à l'époque, lâche-t-il. Un nouveau compte à rebours est lancé. 3 mois en tout et pour tout sont accordés à l'IRGCN pour rendre son rapport. À tour de rôle, les membres du clan Para communiquent sur l'avancée des recherches. L'avocate se confie en premier. Le dossier parle, dit-elle. Mais que dit-il, le dossier ? Aux yeux de la famille, plane l'hypothèse d'un crime crapuleux. Mieux, le ou les protagonistes susceptibles d'avoir causé la mort de Paquita sont tous identifiés dans le dossier. Il faut simplement trouver le bon, assure Christine Maz. Les entretiens, eux, ont porté leurs fruits. Ils se recoupent et désignent à l'unisson un homme au moins. David Parra intervient. Des noms et des incohérences en ressortent. Lui est persuadé que l'épisode du chéquier volé est l'une des clés de l'affaire. Paquita Parra est inhumé une seconde fois le 14 janvier 2020, mardi, l'après-midi. Au sud d'Angoulême, en ce tout début d'année, la famille revit l'enterrement, la boule au ventre. Tous sont encadrés par les experts de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Cette présence, celle des uniformes, leur rappelle les enjeux qui justifient de revivre un tel drame. Mais le jour J, Carmen Parra n'y arrive plus. Non, elle ne se rend pas à l'inhumation de sa fille dans le petit cimetière communal, parce que c'est trop douloureux, explique David, son fils. « Je crois que c'est pire qu'en septembre, lors de l'exhumation », ajoute-t-il. Les proches de Paquita se remémorent. Paquita, forcément, petit bout de femme d'un mètre soixante, adorée de sa famille et pleine de caractère et de charme. José, l'aîné, ne parvient pas à retenir ses larmes, comme le reste de la fratrie, Jean-Marie et David. Il faut cependant aller de l'avant, au plus vite. L'enquête doit aboutir.
Dans la famille, l'espoir renaît enfin. Particulièrement pour Carmen Parra, 86 ans, la mère de Paquita. Quelques jours seulement après sa mort, elle a choisi de venir habiter ici, dans la maison de sa fille. Dans ce lieu transformé en sanctuaire, elle garde l'espoir de comprendre un jour ce qu'il s'est passé.
J'ai envie toujours de savoir la vérité, parce qu'on est toujours pareil, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas s'il a souffert, s'il a eu peur de savoir la vérité avant de partir dans la tombe.
Tous espèrent que ce n'est plus qu'une question de moi, maintenant. On espère des aveux, bien sûr, mais on compte aussi sur ceux qui savent. Alors un appel à témoins est lancé. Et contre toute attente, la stratégie semble payer. Les gendarmes reçoivent notamment une lettre. Ancien directeur de banque, son auteur confesse qu'un client, au moment des faits, lui a affirmé connaître l'assassin. Il y a aussi du nouveau du côté d'un crime. Le logiciel est sur la bonne voie. Tout récemment, en juin dernier, quatre individus proches de la famille ont été placés en garde à vue pendant près de 24 heures. Leurs interrogatoires vont permettre la poursuite des investigations, assure le parquet. Mais aucun résultat ne fuite. L'avocate en est certaine toutefois. Après des années d'abandon judiciaire, on n'a jamais été aussi proche de la vérité, dit-elle. La famille Parra mérite des réponses. Mais si cette famille veut la vérité plus que tout, elle finit aussi par la redouter. Depuis plus de 20 ans, elle baigne dans le souvenir douloureux de la perte d'un être cher. De Paquita, il ne lui reste plus qu'une double image, terrible. D'un côté, son sourire radieux, celui des photos et vidéos familiales. De l'autre, la vision du corps calciné qui la hante. David résume ce tiraillement. L'éventualité d'un procès aux assises me fait peur. Cela nous confrontera à l'assassin de Paquita, à ses mensonges. Ce serait une autre forme d'exhumation. Mais nous nous battons aussi pour notre mère, Carmen. Plus qu'un crime, le dossier Paquita nous parle de deuil, celui d'une famille restée debout pour comprendre. L'espoir qui a récemment regagné les esprits aura-t-il enfin raison de cette affaire longue de 20 ans? Le meurtre de la jeune Paquita finira-t-il par être résolu malgré tous les accrocs qui ont ralenti l'enquête? Peut-être. Mais il paraît clair que jamais la famille Parra ne baissera les bras.
Truly changed when you stare at the heavens, you see the stars rearrange. So be that moves and mediates. Evolution of change that pulsate. The mind state is not impossible for our mission to succeed. You ask, are we chosen? I'll say, indeed. We studied and trained for a warrior mind frame. The counselors gather thicker than soldiers. Live and don't fret, cause it ain't over yet. By the time it is, the crowds are turning to cheers. No fears, just hold on tight, because the darkness will be over by the end of the fight. With doubts and fear, jealousy, all the things that cause casualty, to your soul, let it go. Most of all, be home.
Écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, l'affaire Paquita Parra, dont nous allons parler avec nos invités. Christine Maas, bonjour.
Bonjour.
Avocate de la famille de Paquita, on vous a cité plusieurs fois dans le récit, bien sûr. Et Salvador Parra, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes l'un des frères hein, de Paquita, d'ailleurs. On parle de cinq frères, David, oui. José, Salvador et Jean-Marie. Qui est le cinquième?
Alberto.
D'accord.
Et... nous sommes bien cinq frères.
D'accord. Et pourquoi n'intervient-il pas dans le récit
en
de...
En fait, oui. Bon, il est dans une carrière militaire et souhaité rester un peu rentré sans, pour les médias.
Mais on comprend.
Dans le dossier.
Bien sûr, on comprend parfaitement. Christine Maas, où en est-on aujourd'hui des éléments de l'enquête à partir de ce que nous avons raconté et à partir de la fin du récit? Est-ce qu'entre deux, vous avez d'autres éléments de l'enquête, des éléments nouveaux?
Alors, vous savez que je suis soumise au secret de l'instruction et évidemment, je ne le violerai pas au regard de l'importance de l'enquête aujourd'hui.
Sans dire lesquels, c'est oui ou non. Pardon, excusez-moi.
C'est un élément très nouveau, très important, qui oriente ou réoriente l'affaire, qui n'a jamais été d'ailleurs travaillée sur cet angle. Et nous avons aujourd'hui, évidemment, plus que jamais un espoir important. Ce que j'envisage dans les mois qui viennent, eh bien, donne lieu à d'énormes investigations de la gendarmerie en lien avec le juge d'instruction saisi.
Sans violer le secret de l'instruction, évidemment, de quel angle s'agit-il? Est-ce que vous pouvez nous le dire sans empiéter sur le secret de l'instruction? C'est assez difficile, mais je vous pose quand même la question. Vous dites qu'il y a un nouvel angle, une nouvelle piste, ça a l'air important.
Il y a des témoignages qui amènent à l'identification potentielle d'un criminel, voire de plusieurs. Et il y a des témoignages qui nous amènent à recentrer les charges, ou du moins les éléments de mise en cause sur deux protagonistes dont je tairai les noms, et qui vont évidemment amener toujours cette enquête à prospérer, nous l'espérons en tous les cas.
Parmi l'entourage, les deux personnes?
Alors, c'est des gens qui sont identifiés dans la procédure depuis longtemps. Ce sont des gens qui ne sont pas inconnus dans le cadre de cette procédure. Nous avons eu, et je l'ai toujours dit, et je le regrette tellement, un fiasco judiciaire, une orientation parcellaire des investigations qui ont été réalisées par un juge d'instruction qui a orienté son enquête simplement dans un angle et qui a omis de respecter les règles de procédure classique, je dirais, dans des dossiers aussi importants que ceux qui sont criminels, hein, qui a permis d'ailleurs à cette juge d'instruction d'être récusée dans le cas d'une ordonnance de récusation, ce qui n'est pas neutre. Mmh. Il y a pour la famille que je représente quelque chose d'un goût amer d'avoir été orienté simplement dans une voie, et cette voie était la mauvaise. Mmh. Et ça, nous le savons aujourd'hui, puisque les investigations nous amènent à d'évidence nous indiquer que nous nous sommes trompés dès le départ. Lorsque je dis nous avions évoqué la possibilité, en effet, que Paquita ait été tuée ou du moins menacée par un ex-compagnon de l'époque, mmh, qui présentait un caractère violent, ce qui n'est pas contesté, hein, dans le dossier. Mais il n'en demeure pas moins que l'enquête s'est orientée de manière presque unique sur ce personnage.
Sur cet homme-là, oui, bien
sûr. Et c'est vrai que cela a conduit à une erreur qui est une erreur judiciaire. En tous les cas, je le pense aujourd'hui, nous en sommes quasiment convaincus, et ce qui nous amène aujourd'hui à espérer évidemment un travail complet des enquêteurs qui ont repris l'enquête point par point, et nous espérons que le juge d'instruction qui est saisi va continuer à œuvrer, parce que ce dossier demande un travail qui est tout à fait hors norme.
Salvador Parra, dans quel état d'esprit vous êtes là, au moment où on parle, après 20 ans d'épreuve? D'abord, la mort de votre sœur, l'épreuve humaine par excellence, et puis l'épreuve de cette enquête qui n'avance pas, enfin qui n'avançait pas.
Bah écoutez, en dépit de tout ce temps et toutes ces, peut-être ces dysfonctionnements qu'il y a pu y avoir, eh bien, moi personnellement, je reste confiant en la justice, et je suis persuadé que le travail va payer un jour, que les investigateurs aujourd'hui travaillent sérieusement le dossier, que nous avons eu des juges d'instruction, les derniers juges d'instruction ont fait leur travail sérieusement, et je pense que ça va finir par payer.
Comment ?
Et j'ai totalement confiance en la justice.
Et votre mère ?
Eh bien, aujourd'hui, âgée de 89
ans, c'est
un peu difficile. Pour... Mmh. Elle va plus ou moins bien, elle commence à vieillir sérieusement, et on les tient un petit peu éloignés de ce qui se passe actuellement, et on ne veut pas lui donner de fausses...
Mais oui.
De faux espoirs, et tant qu'on n'a pas quelque chose vraiment de très concret, on la tient un petit peu éloignée de l'affaire. On lui dit que c'est en cours.
Bien. On va se retrouver, madame et monsieur, tout à l'heure, dans 3 minutes, après avoir écouté Eddie de Preto en duo avec Isolde. Ça s'appelle Pause.
Je ne veux pas y faire face. Je préfère me fuir, jusqu'à ce que je m'efface. Je préfère ne rien dire. Je préfère oublier. Je préfère me mentir. Être une chose qu'une chose. On nous dit tenir, toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
Un fond de tristesse qui va me die. Pourquoi mes failles sont aussi claires là, dans la grisaille? Une dernière larme, je me relève toujours fier. Quand j'ai la rage, mais plus de sourire en l'air. J'ai plus de harne là, et je désarme là, jusqu'à me faire mal. Et je m'entends plus penser que des trucs sales plein la tête. Je ne dors plus, je ne bois plus, et voilà que mon cœur part en sucette. J'ai tout fait pour rien lâcher, mais tu sais, toi tu connais comment ouais, je suis épuisé.
Pose sur mon épaule
faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher. On nous dit tenir toujours sourire. Pour qui, pourquoi jamais faiblir? Dis-tu, fais quoi pour pas périr? On nous dit même comment rire, comment faire genre pour se tenir. Toi tu fais quoi toujours pour obéir? Pose sur mon épaule tes peines et tes plaies. S'il le faut, je viendrai les panser. Pose sur mon épaule tes larmes, s'il te plaît. S'il le faut, je viendrai les sécher.
France Inter. Affaires sensibles.
Christine Maz, je voudrais qu'on revienne sur la boîte rose, forcément déposée récemment, trouvée en 2017, déposée récemment comme si quelqu'un retenait l'information que tout le monde cherche et se donnait le droit de maîtriser le tempo, de garder ce qu'il sait pour lui ou pour elle, je ne sais pas. Comment vous avez réagi face à l'affaire de cette boîte rose ?
Alors, j'ai été très, non pas étonnée, parce que, après le non-lieu, ce qui s'apparentait comme un abandon judiciaire, hein, très clairement, on a réagi en faisant pas mal de médias et on a pu recueillir énormément d'éléments qui ont entraîné, vous l'avez très bien dit, l'ouverture de cette enquête préliminaire où je recevais beaucoup d'informations que je transmettais au procureur de la République, qui avait lui-même mis en place une enquête, mais qui n'était pas une enquête d'instruction, hein, vous l'avez compris. Mais pour autant, ce que je disais, moi, le dossier parle. Et il a tellement parlé à un moment donné qu'il y a eu un événement qui a conduit quelqu'un, une personne sans doute, à remettre ces objets dans ce petit bois, sous des feuillages, mais pas tellement cachés, comme si on avait fait ça dans une précipitation. Moi, j'ai évoqué la possibilité qu'en effet, ces documents qui étaient en bon état, donc qui avaient été mis très récemment, hein, alors dans un espace-temps qui est à déterminer, et là-dessus, c'est très compliqué sur le plan scientifique, ces documents ont forcément été remis parce que peut-être le protagoniste craignait une perquisition. Vous voyez, c'est-à-dire que ce dossier a parlé et un événement est intervenu qui est un événement crucial qui montre qu'en effet des documents personnels de Paquita ont été conservés. Alors pourquoi on conserve ces documents? Alors ça, il y a peut-être des théories. Est-ce que la personne avait une proximité avec Paquita telle qu'il lui empêchait de détruire ses documents? Parce qu'en effet, c'est quelque part un aveu de culpabilité, quelque part.
Oui.
Garder des documents d'une jeune femme qui a été assassinée dans les conditions que nous connaissons entraîne à se demander, la question qui se pose, c'est de savoir, mais qui pouvait les garder? À part celui qui a un lien, évidemment, avec le meurtre et qui a peut-être une proximité avec Paquita telle qui lui empêchait de les détruire. On voit souvent ça dans ces actes criminels, un criminel gardé des objets d'une victime parce que ben, soit c'est un lien affectif, soit c'est un lien particulier avec elle. On s'est posé quand même cette question, les enquêteurs se la posent, les enquêteurs raisonnent par rapport à cette orientation aussi, et c'est vrai que ça a du sens lorsqu'on sait que le dossier à cette époque-là donnait lieu à quelques investigations, et notamment des choses importantes laissant penser à l'identification d'un criminel ou de plusieurs d'ailleurs.
Salvador Parra, qu'en pensez-vous sur ce point précis? Et comment avez-vous réagi après la découverte de la boîte? Qu'est-ce que vous êtes dit?
Bah, un étonnement aussi, parce que après autant d'années que ces éléments surviennent subitement, on se pose des questions, et je dirais la même chose que Maître Maz. Mais depuis, vous savez, les scénarios, on s'est fait mille scénarios, donc, on continue à espérer que des éléments vont sortir de ces recherches, des recherches d'ADN, parce qu'on n'a pas tous les résultats et tout est en cours. Donc, et on espère cette fois que on tient le bon bout.
Comment ça s'est passé avec la presse? Parce que parfois pour les familles de victimes, c'est douloureux. Les journalistes ne sont pas mal intentionnés, mais ceux qui peuvent écrire peuvent blesser. Enfin, parce qu'on est fragilisé évidemment. Comment vous avez vécu ça, vous?
Sans trop de problèmes, parce qu'on est resté très éloigné de la presse. Et puis, au début de l'affaire, ça a été évidemment à médiatiser au niveau local, à Charente-Libre ou Sud-Ouest. Après, au niveau national, il y a peut-être une dizaine d'années où on a été un peu approché par la télévision. Ça a pu être l'émission Non Élucidée, d'autres émissions, avec mes frères, à la radio. Mm-hmm. Mais donc, toujours avec une distance et pas de... de voyeurisme, j'allais dire. Oui. Donc avec un certain respect auprès de la famille, et puis le seul but, c'est de rechercher la vérité, et le but des médias, enfin, ça a certainement permis aussi de faire parler des gens et d'aider un peu la recherche de la vérité.
Christine Mars, il y a un dernier point sur lequel je voudrais insister. C'est lorsque Paquita, juste avant sa mort, voulait voir les gendarmes pour leur dire ce qu'il se passait, qu'elle était menacée peut-être par quelqu'un. Les gendarmes ne l'ont pas écoutée.
Ah, ça, c'est tragique, parce que c'est un moment crucial, d'ailleurs, sur lequel on aimerait pouvoir revenir, mais on n'y arrive pas. Et le gendarme a été auditionné. Cette jeune femme de 30 ans qui le soir où elle va être tuée, hein, vraiment...
Oui, c'est même carrément le jour même, effectivement.
À quelques heures près, va dans cette petite gendarmerie et va demander... à être mise sous écoute comme Carole Bouquet. C'est évident qu'elle évoque à ce moment-là une préoccupation. Hein. Du moins, on peut envisager que c'est pas banal de venir dire ça à des enquêteurs. Ça vient suite à une convocation qu'elle aura. Elle est convoquée deux jours après, simplement, mais elle va venir en avance hein, sur le rendez-vous parce que elle veut être entendue ce soir-là. Elle le réclame, elle le demande. Et puis on lui dit ben non, parce que le gendarme qui doit vous entendre n'est pas là. Et elle repart. Voilà.
Et on sait que un certain nombre de féminicides ont été commis aussi justement parce que les plaintes n'étaient pas assez écoutées, qu'il y aurait pu y avoir protection. Alors, je ne sais pas si on peut dire ça pour ce cas-là. Vous me répondez juste par oui ou par non, parce que c'est vraiment fin d'émission.
Je pense que si je vous disais ça comme ça, j'exagérerais.
Ouais,
parce
ça.
Que chaque cas est différent et que je ne veux pas, dans ce cas-là, justement, trahir ce que Paquita venait chercher. Elle venait forcément chercher
quelque
à
chose.
Être protégée.
Bien,
ça,
alors
on va
terminer là-dessus, pardon, c'est un peu brutal, mais le temps. L'heure, c'est l'heure. Merci infiniment, Catherine et Christine Maz. Et ainsi, merci également à Salvador Paral, des frères de Paquita. Merci, au revoir.
Merci à vous.
C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'affaire Paquita Para, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.